Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 31. Comme pour un deuil, après une telle prise de conscience, la première phase fut le déni. Il ne pouvait pas, ne voulait pas, partager la responsabilité, même partielle, des désastres écologiques et économiques qui semblaient se profiler. Il chercha à en savoir plus sur le matériel qu'il avait sur ses étagères, contacta les fournisseurs, et put même visiter une usine chinoise fabriquant des écrans tactiles tels que ceux qui équipaient la plupart des modèles qu'il vendait. La visite fut brève mais édifiante. Les conditions de travail étaient dures et les ouvriers très jeunes. Tous vêtus d'une combinaison stérile, affublés d'un numéro dans le dos, on distinguait à peine leur visage. Dans la fourmilière de l'usine, certains d'entre eux déplaçaient les écrans d'une chaîne de montage à l'autre, d'autres, souvent des femmes, soudaient les composants. En fin de chaîne, le nettoyage était assuré par des jeunes gens, presque des enfants. Anthony leur aurait donné 16 ans, ou moins, même s'il ne parvenait pas à évaluer correctement l'âge des visages de type asiatique. En fin de journée, épuisés, ils quittaient l'usine en se chamaillant comme des adolescents et sortaient de leur poche leur propre téléphone pour envoyer quelques SMS, prévenir leurs parents peut-être. Son propre salaire et celui de nombreuses personnes à l'autre bout du monde, leur confort moderne, dépendaient de l'exploitation d'autres humains et du prélèvement de matières premières de plus en plus rares, transformées avec toujours plus d'énergie. Vint ensuite une phase où Anthony chercha à diminuer son empreinte écologique et celle des produits qu'il vendait en cherchant des alternatives éthiques permettant le compromis entre modernité et soutenabilité. Il chercha des fournisseurs labellisés qui garantissaient un certain niveau d'humanité et une gestion rigoureuse des ressources. Mais même chez les plus exigeants d'entre eux, le modèle économique dominant obligeait à des gaspillages et à une forme plus ou moins assumée d'esclavage des employés. Le tissu industriel français était devenu incapable de rivaliser sur ces marchés. Aussi ne trouva-t-il aucune solution sur le sol national. Il menait ses recherches en marge de la gestion de son magasin. Audrey finit par lui poser quelques questions quant à ses voyages en Chine et les relations qu'il entretenait avec ses fournisseurs qui n'étaient pas au catalogue de smartphones. Elle commença à douter de lui et à se demander si l'article de Closer n'avait pas vu juste. Peut-être était-il en train de la doubler, d'une façon ou d'une autre. Il lui assura qu'il n'en était rien et exposa lors d'une réunion des responsables de magasins son idée d'orienter au moins une partie du catalogue sur des modèles éthiques comme le Fairphone, un téléphone intelligent produit dans le respect de la main-d'œuvre, du prélèvement des ressources jusqu'à la fabrication. Sa proposition fut largement commentée et finalement rejetée. Rémo insista lourdement sur le fait que leur clientèle n'avait aucune espèce de considération écologique et que c'était un combat d'arrière-garde. Il cita le cas d'une de ses clientes régulières qui refusait de porter deux fois la même paire de chaussures. Petit à petit, Anthony se sentit exclu du groupe et ne fut plus invité à toutes les réunions, notamment celles qui abordaient l'orientation stratégique de la marque. Il sentit à nouveau le besoin de se ressourcer en retournant chez lui. Il espérait également une explication avec Marion. Lorsqu'il débarqua à l'improviste chez Jean-Jacques, celui-ci profitait de la douceur de cette soirée de printemps pour lire sur la terrasse. En le voyant arriver, il posa son livre sur la table et se leva pour le saluer. « Anthony, que fais-tu là ?»«
Je passais dans le coin et... »«
Assieds-toi, je t'en prie. Tu as meilleure mine que l'autre fois. »«
Pourtant... »«
Quelque chose qui ne va pas ?»«
Bof, la routine. Qu'est-ce que vous lisiez ?»
Un vieux bouquin sur les jardins de Paris, une sorte de recueil des variétés de fruits et légumes qui étaient encore très cultivés au début du XXe siècle, au sein même de la capitale. C'est intéressant.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'autonomie de la capitale en nourriture est de 3 jours. Tu imagines? Si pour une raison ou une autre, les camions de ravitaillement n'arrivent plus à Paris, il ne faut que 3 jours pour affamer toute une population.
Comment en est-on arrivé là?
C'est toute une histoire, mais tu n'es pas venu là pour l'entendre.
Je suis venu là sans but précis.
« On n'arrive jamais chez moi par hasard, » ironisa Jean-Jacques. « Je vais te chercher à boire. Jus de fruits, infusion, café, limonade ?»«
Vous achetez de la limonade ?»«
Je la fais.
Alors je veux bien goûter ça. »
Jean-Jacques disparut dans la maison. Anthony regarda la nature autour de lui. Les arbres et arbustes qui entouraient la maison foisonnaient de bourgeons minuscules pour les moins avancés et de feuillages drus pour les autres. La végétation semblait déborder d'énergie et pousser à vue d'œil à cette période de l'année. Une odeur de chlorophylle agréable flottait dans l'air tiède. On ne sentait jamais ça en ville, même dans les grands parcs de Paris. Jean-Jacques reparut avec un plateau chargé de 2 verres et d'une bouteille de liquide transparent.
« Dommage que Marion ne soit pas là, dit-il en posant le plateau sur la table. Elle aurait été contente de te voir. »«
Elle n'est pas là, répondit Anthony en essayant de masquer sa déception. »
« Non, elle est à nouveau en mission, mais elle revient la semaine prochaine. »«
Toujours au pôle sud ?»«
Toujours. La disparition des manchots est inquiétante. Elle s'accélère et... »«
Et Marion y peut quelque chose ?»«
Directement, non, mais pour avoir conscience d'un problème, il faut en prendre la mesure. C'est ce qu'elle fait. »«
Mais dans quel cadre ? Je n'ai jamais bien compris ce qu'elle... »«
Elle est chercheuse. »
Jean-Jacques déboucha la bouteille à l'aide du levier en métal qui maintenait le bouchon en place. La pression du gaz était forte et produit une détonation surprenante. Sitôt après, des milliers de bulles qui naissaient au fond de la bouteille cherchèrent à rejoindre la surface, faisant monter le niveau du liquide jusqu'au bord du goulot, sans le dépasser. Il en versa deux verres et s'assit.
« Chercheuse, si jeune ?»«
Marion est une fille incroyable, tu sais. Quand je l'ai déscolarisée, elle montrait déjà des aptitudes tout à fait étonnantes, mais c'est ensuite que ses vrais talents se sont révélés.
Mais pourquoi l'avoir déscolarisée ? Elle était en échec scolaire ?
En échec, Marion ? Il sourit à cette idée. Non, j'ai préféré lui permettre de voir autre chose et lui éviter une certaine forme de bourrage de crâne dont j'ai souffert. Et toi aussi, d'ailleurs.
Il y a quelques mois, Anthony aurait réagi à cette phrase, mais cette fois, il laissa Jean-Jacques continuer.
Je n'en veux pas au professeur, ni même à l'éducation nationale. C'est juste un problème... Il chercha un mot adapté. Systémique. Et comme tout problème systémique, la solution ne peut pas venir du système lui-même. Il faut s'en extraire, alors je l'en ai extraite.
« À ta santé !» dit-il en levant son verre.
Anthony leva son verre à son tour et posa ses lèvres sur le rebord. Des bulles éclataient à la surface et éclaboussaient le bout de son nez de micro-gouttes avant que le liquide frais ne se déversât sur sa langue. Le picotement était intense, mais agréable, et réveilla ses papilles. Lorsqu'il déglutit, une intense saveur citronnée envahit sa bouche. Il passa la langue sur ses dents et ses gencives pour adoucir les derniers picotements et sourit.
C'est très désaltérant.
De fait, non, parce que c'est trop sucré. Plus tu en bois, plus tu as soif. Mais la sensation est agréable et donne l'impression de désaltérer, je te l'accorde.
C'est donc vous qui avez assuré seul la scolarité de Marion à partir de la seconde.
Mais non, pas seul. Je connaissais quelques profs d'université qui lui ont donné des leçons. Elle a suivi des cours par correspondance. Mais surtout, elle a beaucoup travaillé elle-même en cherchant à la bibliothèque universitaire les ouvrages dont elle avait besoin. Elle s'est inscrite en candidat libre à toutes les épreuves et a tout réussi bien avant l'âge habituel.
Et elle vous aidait à cueillir vos fruits pendant ce temps ?
Aussi, oui, ça faisait partie de son éducation, ajouta-t-il en riant.
Et comment en est-elle arrivée à l'étude des manchots ?
C'est son sujet de thèse. Elle est une sorte de référence dans le milieu. Je t'avoue que je n'y comprends plus grand-chose.
Vous n'êtes pas scientifique ?
Je suis ingénieur aéronautique de formation, mais il y a longtemps que j'ai mis tout ça de côté.
Anthony ajouta intérieurement à la phrase de Jean-Jacques, et je ne souhaite pas aborder ce sujet maintenant.
Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Tes téléphones se vendent toujours?
Toujours, malheureusement ou heureusement.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Je me pose des tas de questions.
Allons bon, à quel sujet? Je peux t'aider?
Anthony expliqua sa prise de conscience sans mentionner la lettre de Marion qui l'y avait conduit. Jean-Jacques écouta attentivement, sans le juger, ni donner de leçons. Il se contenta d'acquiescer et de le relancer comme pour vérifier jusqu'où Anthony était allé dans sa réflexion et ce qu'il était prêt à remettre en cause de façon radicale.
« Il faut que tu parles de tout ceci avec Marion. Elle s'inquiète beaucoup à ton sujet et... Elle va me maudire si elle sait que je t'ai dit ça, mais... Elle tient à toi.